On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est vite prêt, c'est froid, ça se mange vite et c'est assez complet, voilà.
Des sushis, on en trouve à tous les coins de rue et les Français adorent.
Sentiment de légèreté entre le sushi, le maki.
Pizza, oui, burger, mieux. Sandwich tous les jours, à un moment...
C'est pas très bon à force, alors que le japonais, c'est toujours bon.
Regardez-y de plus près, voici un sushi français et le sushi du maître. Et ne lui demandez même pas d'y goûter, refus catégorique.
Du coup, ça pour vous, c'est peut-être un sushi. Mais pour nous, au Japon, je peux vous dire que ça ne ressemble en rien à un sushi.
Le mot umami est japonais. Umai pour délicieux et mi pour le goût délicieux.
J'adore les sushis.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Nous aussi, on adore les sushis. Enfin, ça dépend lesquels, car oui, le sushi est un objet alimentaire du genre schizo. D'un côté, une nourriture mondialisée qu'on trouve désormais à tous les coins de rue et dans tous les supermarchés. De l'autre, un sushi comme un totem gastronomique, comme une quête esthétique et gustative, le sushi comme un art. L'art du sushi, c'est précisément le titre d'un nouvel album de bande dessinée qui est un vrai coup de cœur, je tiens à le dire. Au sein de l'équipe dont on va déguster, on s'est régalé à sa lecture. Il est publié ces jours-ci aux éditions Delcourt et on reçoit son auteur, on en est ravis, c'est Francky Alarcon. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, Francky?
Plutôt très bien, même.
Vous vous souvenez de votre premier passage dont on va déguster?
Super, j'ai pas oublié du tout.
On vous avait reçu il y a quelques années pour une bande dessinée très salivante sur les secrets du chocolat. C'était une immersion dans l'atelier du grand chocolatier Jacques Genin. Vous êtes resté en contact avec lui?
Ouais. Je vais sûrement aller le voir ce week-end pour lui donner la bande dessinée d'ailleurs.
Ah, j'ai cru que vous alliez lui apprendre la recette des sushis. Non, bon. Vous vous intéressez en tout cas dans votre nouvel album de bande dessinée au sushi à travers un road movie qui entraîne le lecteur de Paris au Japon en passant par la Bretagne. L'art du sushi aux éditions Delcourt, vraiment un très chouette livre. Nous avons également autour de ce plateau une des expertes de la cuisine nippone qui apparaît d'ailleurs, Francky, dans votre bande dessinée, c'est Chihiro Masui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes japonaise installée à Paris et une nouvelle édition de votre livre Poisson, un art du Japon avec les splendides photos de Richard Houghton est édité chez Glénat et vous nous avez préparé une étonnante spécialité qui se nomme
l'inari sushi.
Inari sushi, ouais, des petites enveloppes de tofu frit, on va voir ça, qui contiennent des petites boules de riz, c'est une spécialité prodigieuse. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson et Dominique Hutin, bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Vous allez bien?
Très bien. Yes.
Vous êtes...
Moi je suis mochi.
Vous êtes mochi?
Je suis mochi, je suis sushi et mochi.
Sushi et mochi, et Dominique vous êtes quoi?
Bah écoutez, d'habitude vous aimez bien moquer mon accent anglais, bah là je vais bousiller du japonais aujourd'hui, avec le saké.
Ah, on va passer une saké matinée. Vous pouvez retrouver toutes les infos relatives à cette émission ainsi que le podcast sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de gober des sushis, je vous propose de goûter un autre emblème alimentaire, au moins aussi connu mondialement que le sushi. Un concurrent du sushi pour ce qui concerne la street food, une petite idée comme ça?
Crêpe?
Non.
En France?
France, Belgique.
Ah, chocolat.
Quelle mérite.
Je suis un peu obsédé. Ouais.
Belgique égale frites.
Je vais me faire gronder par nos auditeurs. Je parle de frites chaque semaine, ça devient une véritable obsession. J'étais, figurez-vous, il y a quelques jours en Belgique pour ce que je considère être une quête existentielle. Percer les secrets de la frite belge. Je suis allé, alors les Belges vont vous dire que c'est un pléonasme, hein, frites belges évidemment, mais je suis allé goûter quelques cornets de frites dans des frites-côtes de Belgique, en compagnie d'un monomaniaque du bâtonnet de pommes de terre.
Donc je m'appelle Hugues Henry, journaliste de profession, qui il y a près de 20 ans de ça s'est aperçu qu'autour du bâtonnet de pommes de terre frites, il existait un véritable univers dans lequel j'ai plongé comme une frite dans la graisse bouillonnante. Certains m'appellent maintenant parfois fritologue, mais c'est peut-être un peu prétentieux. Il faut rester simple comme la frite.
Et tu m'emmènes dans un de tes frites-côtes préférées. On est tout près de Bruxelles.
Oui, on est à Uccle exactement, à la friterie du Bourdon, qui est tenue par Daniel et son fils. Alors pourquoi ici? Pourquoi sortir du centre de Bruxelles? Parce que Daniel a été fait chevalier de l'Ordre National du Cornet d'Or. Ce n'est pas rien.
Et il est frituriste depuis 38 ans?
Le secret d'une bonne frite, éplucher ses pommes de terre soi-même, les pré-cuire en douceur, et puis les terminer avec une cuisson pas trop vive, qu'elle soit bien croquante à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur.
J'ose à peine vous demander la nature de la graisse de cuisson.
Ah, du blanc de bœuf. Il n'y a rien d'autre pour moi. J'ai déjà essayé avec des huiles, mais ça ne donne pas du tout le même résultat.
À quelle sensation on peut s'attendre ?
De la douceur. Manger des frites, ça rend heureux d'ailleurs. Mais vous avez d'abord un léger croquant sur l'extérieur, et puis vous avez la texture de la patate qui est encore là, parce que je fais des frites de 13 mm sur 13 mm.
C'est précis ?
Précis, tout à fait. Parce que toutes les fines frites, c'est d'une banalité, c'est d'une facilité, il n'y a rien à faire, on les plonge, on les retire, elles sont cuites. Mais quand on prend une plus grosse frite, il faut savoir les manier, il faut savoir les traiter en douceur, je dirais. Ouais, c'est ça.
Alors, là, je la goûte, la frite de Daniel. Ce qui est fantastique, c'est que celle-ci, elle a été servie il y a déjà quelques minutes, mais que grâce au moelleux, à la matière qui est à l'intérieur de ce croustillant, cette matière reste chaude, comme un cœur qui bat, et donc on a une frite qui reste chaude plus longtemps.
Vraiment belge, la frite ?
Non, peut-être. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, la frite est belge. En tout cas, c'est l'avis du fritologue Hugues Henry, avec qui j'ai dégusté les sublimes frites belges de Daniel Delin, aux manettes de la friterie du Bourdon, quand même, à Uccloss et au sud de Bruxelles depuis 38 ans.
La frite qui rend heureux.
La frite qui rend heureux, exactement. Et c'est une frite vraiment qui... On part de la pomme de terre. Hein. Vous savez comment les Belges appellent la pomme de terre ?
Non.
La frite sauvage. Et de cette pomme de terre, ils font des bâtonnets, 13 mm de section, deux bains de cuisson, ça c'est la force évidemment de l'école belge, et puis surtout la matière grasse, du blanc d'œuf, il n'est pas question d'utiliser de l'huile de tournesol ou autre chose. Voilà, la friterie du Bourdon, une baraque toute cabossée sur un rond-point, et ça vaut vraiment la peine d'y aller, d'autant que franchement les prix sont hallucinants, 2,40€ pour un petit cornet, mais quand je vous dis petit cornet, ça vous remplit le ventre, et pour le cornet géant, vous pouvez taper ça à 2 ou 3, c'est 3,95€, voilà. Derrière la console pour réaliser cette émission, Laurent Thomas, en compagnie de Rémi Sistiaga et Nadia Chougui. On va déguster des sushis juste après. The Raconteurs, ils se définissent comme un jeune groupe de vieux amis. Ce sont des vétérans de la musique de Détroit, dont Jack White quand même. Et le titre Know That You're Gone a été choisi par Djoubaka, notre programmateur musical. On a faim sur France Inter.
gone. Now that you're, now that you're gone.
Là-bas, les grands maîtres ont fait du sushi une cuisine d'exception. À sa table, M. Mizutani servira les meilleurs poissons du jour. Thon rouge, barbu et koada. Son restaurant, 3 étoiles au guide Michelin, est un lieu pour initier. Il se cache au 9e étage de cet immeuble, dans le quartier de Ginza, la Mecque des sushis. Dans ce tout petit restaurant, il n'y a pas de carte. Le maître confectionne ses sushis en fonction de la pêche du jour, devant les clients, comme le veut la tradition. Quant aux poissons, le temps qui s'écoule remplace la cuisson et l'assaisonnement.
Pour qu'il soit vraiment parfait, pour qu'il développe tout son goût, ce poisson doit reposer entre 7 et 8 heures.
C'était un extrait de Sushi, les recettes d'un succès, un documentaire diffusé sur France Télévisions en 2016. Et ce documentaire avait notamment le mérite de dévoiler le travail d'un des maîtres incontestés du sushi, Hashiro Mizutani, 3 étoiles au guide Michelin. Il officie dans le quartier de Ginza. Absolument, on est dans le quartier chic de Tokyo. Vous considérez, puisque vous le connaissez très bien, Shihiro Masui, que Mizutani a vraiment poussé l'art du sushi à la perfection?
Pour moi, c'était le meilleur. Maintenant, il est à la retraite, mais pour moi, c'était le meilleur parce que il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est le spectacle. Quelque chose qui se passe comme ça, un comptoir, c'est un comptoir de 10 places. Le maître est là, son assistant est là, ils sont deux derrière le comptoir, et Mizutani a ou avait une élégance du geste, et ses sushis étaient beaux, tout simplement très simples, très épurés, mais beau. Et c'était un plaisir de regarder ses mains. D'ailleurs, en plaisantant, il disait que si un jour il est au chômage, il fera modèle de main. Il avait de très belles mains. Ça joue, malgré tout.
Le sushi, à la base, c'est un apprentissage qui prend beaucoup de temps. Il faut se frotter au meilleur maître. Il y a plusieurs étapes dans cet apprentissage qui fastidieuses.
Autrefois, on parlait d'apprentissage de 10 ans minimum.
Oui.
3 premières années à nettoyer les toilettes.
Mmh.
Ensuite, nettoyer, je sais plus, le comptoir, les cuisines. Vers la fin, vous commencez à toucher aux poissons, à les lever en filet. Et peut-être, si vous avez beaucoup de chance et qu'on vous fait confiance, vous touchez au riz à la fin. Après, vous êtes entraîné avec des boules de tissu à faire des boulettes. Donc vous ne touchez pas directement au riz, le riz est précieux.
Rodez votre chorégraphie manuelle sur d'autres ustensiles. Vous avez été, Shihiro Masui, l'entremetteuse dans cette histoire entre Frankie Alarcon et ce grand maître du sushi, Hashiro Mizutani. C'est grâce à Shihiro, vous le racontez dans les premières pages de votre album dont je rappelle le titre, Frankie, l'art du sushi aux éditions Delcourt. Ça a été un choc. Qu'est-ce que ça représentait? On le sent, hein, quand vous arrivez dans cette petite pièce modeste, 10 couverts seulement au comptoir, la prestation d'un chef qui fait une espèce de one-man show comme ça. Ça a été un électrochoc?
Ouais, déjà, et même avant de rentrer dans le restaurant, parce que le restaurant n'est pas visible de la rue. Donc déjà, il y a, alors si on parle japonais, ça va mieux. Mais moi, je parlais pas japonais. Quand on arrive, il y a une entrée d'immeuble, des petits panneaux marqués en japonais. Et là, on prend un ascenseur, on arrive au 9e étage et on arrive directement dans le restaurant, en fait. Et là, on est accueilli par la femme de Monsieur Mizutani. Mmh. Et du coup, c'est assez solennel parce qu'elle est en tenue traditionnelle. Et là, il y a 4 clients, Mizutani au comptoir et nous.
Et là, vous êtes impressionné, intimidé, impatient. C'est quoi votre état d'esprit?
Les 3 en même temps. On est très très impressionné parce que le restaurant est étoilé et du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît chez nous en restaurant étoilé.
C'est pas la même idée du luxe.
Non, pas du tout. C'est un petit comptoir de 10 personnes, tout en inoki, hein, si tu dis pas de bêtises.
Alors, inoki, c'est un bois précieux.
C'est un bois blanc qui est très tendre et qu'on utilise pour tous les comptoirs de restaurants gastronomiques.
Qui est, je crois, de la même famille que le cyprès, me semble-t-il.
Oui, c'est le cyprès japonais ou l'épicéa japonais, je sais plus. Oui.
Un conifère.
Tout est hyper minimaliste et vraiment tout est fait pour que Mizutani soit mis un peu le maître de cérémonie, en tout cas de ce moment d'exception.
Vous nous racontez par le menu, dommage que nos auditeurs n'aient pas l'image, mais on retrouve ça dans votre bande dessinée, une double page de ces fabuleux objets, ces canapés de riz surmontés d'une lamelle de poisson avec des variétés très différentes que Mizutani va d'ailleurs sélectionner, ou allait, puisque vous nous dites qu'il est à la retraite, sélectionner lui-même d'abord à Tsukiji dans le fameux marché aux poissons, et puis ensuite ce marché aux poissons a déménagé au sud de Tokyo. Sensation de texture, de... On dit souvent que le sushi, quand on le met en bouche, c'est comme un baiser langoureux. Il y a un érotisme du sushi incroyable.
Il y a une élégance, en tout cas, je trouve, ça c'est certain, en tout cas chez Mizutani, c'est vraiment évident. Ces sushis sont hyper classe, en fait. Il les pose sur la petite tablette noire qui est posée devant nous, et c'est juste, c'est un ensemble de choses, c'est déjà les mouvements quand il crée le sushi, et après l'objet posé devant, parce que c'est vraiment, il y a un moment de contemplation un petit peu avant de le manger. Et au premier sushi, on était tous scotchés, hein, j'étais avec ma femme et mon éditeur et sa copine, et tous les quatre, on était éberlués devant le premier sushi posé devant nous, et très intimidés aussi en plus.
Oui, parce que vous racontez dans votre bande dessinée que dans cette expérience exceptionnelle, que peu de gens ont l'occasion de vivre, il y a des faux pas à ne pas commettre, il y a des règles de bienséance pour respecter le sushi, pour ne pas vexer le chef quand on se met à le déguster, comme planter par exemple, vous le dites, ces baguettes dans un sushi, ou le croquer en deux, faut l'intégrer entièrement
tout
dans la bouche,
etc. Une seule bouchée.
Sinon, ça se passe mal, en fait. Sinon, la relation est un peu biaisée avec le chef.
Je pense que, alors, nous, on n'a pas fait de faux pas. Notre guide, quand on est au Japon, Rika...
Vous aviez demandé des conseils à Shiro.
Shiro m'avait un peu briefé aussi avant, et Rika nous avait rebriefé. Rika, c'était notre amie japonaise qui nous a guidés, en fait, pendant le séjour là-bas.
Et qui est un vrai personnage dans votre bande
dessinée. Un vrai personnage, évidemment. Sans elle, en fait, on n'aurait pas pu faire l'album, parce que c'est elle qui a fait la traductrice. Elle nous accompagnait pendant les 17 jours du séjour au Japon. Et elle a fait un travail formidable parce qu'elle trouvait tous les interlocuteurs que je lui ai demandé.
Alors les faux pas, justement, c'est quoi? Ne pas planter les baguettes dans le riz, ça c'est sûr, c'est très impoli.
Voilà.
Ne pas dépioter les sushis avant de le manger, on ne sépare pas la tronche de poisson du riz.
Et puis demander surtout... de la mayonnaise comme les frites de...
vous pouvez tenter.
Non mais là, vous dites une chose assez juste, c'est que je crois que le maître sushi intègre dans sa bouchée la sauce soja qu'il faut avec un pinceau, la touche de wasabi qui apporte ce petit piquant, mais il n'est pas question de demander de la sauce soja pour tremper son sushi, par exemple.
Ah, donc on ne trempe pas son sushi comme on fait nous quand on va dans un restaurant japonais.
Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas faire et qu'on fait souvent en France, c'est mettre le gingembre sur le sushi comme un assaisonnement ou comme un condiment, et non, ça...
Par contre, si j'ai bien lu la bande dessinée de Francky Alarcon, il a quand même une fonction, ce gingembre mariné.
Ouais, tout à fait. Alors, si on a envie de se changer le goût du palais, parce que des fois, certains poissons peuvent avoir un goût un peu plus fort, sans que jamais ce soit très très poissonneux non plus, évidemment. Mais du coup, si on veut se changer, justement, retrouver une neutralité un peu du palais, le morceau de gingembre est là pour ça. Et hop, un petit morceau de gingembre entre deux sushis, ça nettoie la bouche et on peut reprendre... avec une bouche un peu purifiée, voilà.
On appuie sur reset et on repart sur un nouveau sushi, c'est bien ça. On apprend dans votre bande dessinée, oulala, on pourrait penser que c'est un impair, qu'on a le droit de se saisir du sushi avec les mains.
Alors, je vais être honnête, moi je préfère y aller même avec les doigts parce que...
Oui, quand je dis avec les mains, c'est on les saisit,
On pince avec juste deux doigts et on le mange immédiatement. Avec les baguettes, il y a quand même plus de risque de défaire le sushi si on manipule pas très très bien les baguettes, du coup de démolir l'œuvre du maître. Donc avec les doigts, directement dans la bouche.
Alors, dans les sushis à haut de gamme, il y a la serviette pour s'essuyer les mains quand on arrive. Et il y a une sorte de mini serviette pour s'humidifier les mains avant et après qu'on ait pris le sushi avec les doigts. Et étant donné qu'un sushi haut de gamme aujourd'hui à Tokyo va vous coûter les 300 euros prix de départ, sans rien compter de supplément, pas de boisson, rien, avec ça vous avez du thé. Je pense que c'est la seule gastronomie au monde aujourd'hui qu'on mange avec les doigts à ce prix.
C'est ça.
Pour 300 euros, on a le droit de boire le rince-doigt, non?
En même temps, vous nous dites quand même que le sushi se démocratise. Il y a quand même une volonté de rendre le sushi plus accessible à des gourmets qui n'ont pas ces moyens-là.
Il y a d'un côté les sushis très chers et puis de l'autre côté les sushis vraiment pas chers du tout. Par exemple, les sushis tournants, les kaiten sushis dont parle Francky dans son livre.
Et de qualité honorable?
C'est un peu comme tout, il y a les bons, il y a les mauvais.
Oui.
Je n'ai pas eu la chance de tomber sur un bon, mais j'ai entendu dire que ça existe.
Ça existe.
Il y a les sushis intermédiaires aussi, ceux qui vont être à 100 euros par personne, qui sont tout à fait honorables. Et je pense que dans cette catégorie-là, il y a un peu plus d'aventure. Les artisans essayent des nouvelles choses.
Moins codifiés peut-être.
Moins codifiés, des sushis cuits, des sushis de produits qu'on n'utilise pas traditionnellement.
Voilà. Et 100 euros reste quand même évidemment une somme tout à fait élevée. Vous faites l'effort justement dans votre livre, Francky Alarcon, c'est même pas un effort d'ailleurs, c'est non, votre, c'est votre quête et votre enquête, mais qui va vous a poussé tout naturellement chez justement un de ces jeunes chefs qu'évoquait Shiro Masui. Il s'appelle Okada, voilà justement un jeune chef, trentenaire, qui souhaite rendre le sushi plus accessible dans un restaurant qui s'appelle
Sumeshiya.
Sumeshiya, on est à Tokyo.
On est à Tokyo, toujours, dans un quartier bien plus tranquille que Ginza, qui est quand même le quartier un peu chic, tout ça. Donc là, c'est vraiment dans une petite ruelle où il y a peut-être deux, trois restaurants à proximité, mais pas plus. C'est très, très calme.
Et ce chef ose innover.
Oui, il ose faire une rupture avec la tradition, surtout. Alors, parce qu'il n'y a pas de comptoir. Donc on mange à table. Donc déjà, ça, c'est un vrai changement par rapport au sushi traditionnel. Et en plus, il ne se fournit pas à Tsukiji.
Tsukiji qui était ce grand marché aux poissons.
Qui est le grand marché aux poissons de Tokyo où tous les chefs vont se fournir. Et lui travaille plutôt avec des tout petits pêcheurs en direct et il fait vraiment avec ce que lui ramènent les pêcheurs. Et souvent des poissons justement qu'on utilise rarement en sushi.
Des petits pêcheurs de la baie de Tokyo, parce que vous nous emmenez également, vous avez mis quasiment la tête dans les filets de certains pêcheurs. Vous êtes allé vraiment dans tous les métiers qui entourent le sushi. Ouais. On fait la connaissance dans votre livre de pêcheurs, d'artisans couteliers, car le couteau est très important pour le sushi aussi, d'artisans de céramique.
Aussi, ouais, parce que ça fait partie intégrante chez Okada qu'on a rencontré. Même s'il n'y a pas le comptoir, en tout cas, il a mis en avant le côté artisanal avec la céramique, parce qu'il a une passion pour ça, et surtout avec les petits verres de saké aussi. Ça, c'était assez rigolo. Donc, il apporte un plateau en début du repas, et on doit choisir un verre à saké.
Génial.
Donc, voilà. Et il y en a plein de différents, et dont certains qu'on ne peut pas reposer. Donc voilà, donc on est obligé de boire cul sec.
Vous leur avez fait la surprise dans le scénario de votre album. Je ne sais pas quelle est votre part de mythomanie dans votre travail d'auteur de bande dessinée, mais vous lui avez vraiment apporté des poissons que vous aviez pêchés le matin
vraiment,
même.
Vraiment, ça s'est passé comme ça. En fait, la veille, on était parti donc rencontrer la famille de pêcheurs de Rika, notre guide. On a droit à un repas gargantuesque de produits de la mer la veille, et à 3h du matin. On nous emmène en pleine mer.
Après avoir dormi.
Dormi sur le port, sur les tatamis, sur des petits futons sortis des placards. Et donc, on part en mer et on fait la pêche à l'anchois. Donc voilà. Mais dans les filets de pêche, il remonte également des maquereaux, des barres, quelques poulpes aussi à l'occasion. Donc on est revenu avec cette pêche miraculeuse un petit peu. Et puis, on est allé voir directement le chef Okada le lendemain matin. Et il nous a préparé ses poissons.
Alors que l'anchois n'est pas un poisson qui se prête traditionnellement au sushi, si ?
Alors, on peut aussi le manger en sushi, parce que la veille, les pêcheurs nous ont préparé des sushis pressés d'anchois.
Ah oui.
Donc, ça peut se faire. Alors, chez Okada, on a ramené plutôt des gros poissons, hein, plutôt maquereau, bar et chinchard, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Et du coup, pas d'anchois. Et donc, Okada nous a préparé ça. Voilà. Donc, on a vraiment vu de la mer à l'assiette le trajet du poisson.
Incroyable.
Comment il arrive et comment il est préparé.
Dans un instant, justement, avec Shiro Masui, on va voir la différence de vision qu'il y a entre le Japon et la France concernant notre rapport au poisson et notamment sa mise à mort. Parce que le poisson, on le consomme, il faut bien le tuer. Il y a une technique japonaise qui commence à avoir beaucoup de succès. J'ose ce mot dont on entend beaucoup parler dans le milieu gastronomique, Ikejime. Très intéressant surtout comme façon d'influer sur la qualité organoleptique, mais également la texture de la chair du poisson. On en parle dans un instant, juste après un petit tour dans nos verres.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin, des verres ou...
Des verres, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on puisse faire de manière domestique, à la maison. Alors, juste avant, on était au resto. Bah, restons-y. Il faut le dire quand même, la majorité des sakés qui vous sont servis en fin de repas ne sont pas des sakés. Pourquoi ? Parce que saké, c'est un terme générique qui veut dire distillé. Et souvent, se cache derrière le terme de saké, bah, simplement un alcool de très basse extraction. Voilà. Le saké, c'est un peu un vin de riz, entre guillemets.
Donc c'est une boisson fermentée.
Oui, voilà, nous on est dans ce registre-là. Et d'ailleurs, quand vous êtes au resto, le fait que ce soit gratuit pourrait vous alerter, un peu vous orienter sur la qualité de ce qui vous est servi. Alors, j'avais fait une promesse en début d'émission qui était de bousiller le japonais, ben, c'est maintenant. Voilà. Donc je vous ai servi un saké Ninki Ishikuro.
Est-ce que ça va, Shiro ?
Non. Limite, hein. Alors, il fait partie d'une famille qui s'appelle Junmai Ginjo, c'est 14,5 degrés. C'est pas tout à fait un haut de gamme, mais on n'est pas sur un super premium, mais on est quand même sur un truc d'expression assez ambitieuse, 25 euros la bouteille, avec deux options. Soit je le sers frais, comme je l'ai fait là, 10-12 degrés, par exemple, mais on peut aussi très bien le servir chaud, voire carrément chaud, entre 50, quasiment 50 degrés, ce qui va avoir pour effet de renforcer les arômes et lui donner la direction, par exemple, de crustacés. comme on est à l'heure de l'apéro, j'ai pris la version fraîche, c'est-à-dire plutôt l'élégance, quelque chose de fruité, fleuri, plutôt quelque chose d'élégant, de détendu. Je l'ai servi dans votre verre, mais l'ambition est un petit peu plus large ce matin, c'est faire entrer le saké, le vrai, ça vous l'avez compris, dans le verre des Français. Et ça, c'est possible. Ça oblige simplement d'abord à oublier notre grille de lecture qui est calquée sur la dégustation du vin. Notamment parce que le saké diffère du vin en termes de structure, en termes de texture. Par exemple, il n'y a pas d'acidité franche et surtout, il n'y a pas de tanin. Donc vraiment, on est sur un autre registre. Il faut s'oublier. Une page blanche, on recommence. Et si on veut finir d'épuiser ce parallèle, on peut loucher côté cuisine, cuisine française, japonaise. D'un côté, nous cultivons l'art de l'assemblage. On va assembler des produits de talent, alors que les Japonais vont plutôt être dans le sens de l'épure. On va déshabiller. Et ben c'est la même chose pour le vin où on extrait alcool et tanin. Et pour le saké, où au contraire, on va polir le grain de riz pour atteindre la concentration d'amidon qui est nécessaire au développement des arômes. Donc, voyez, on est vraiment dans un geste tout à fait différent. Alors, autant le dire, la chronique ne peut pas suffire à épuiser le registre du saké. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs centaines de variétés. Ne serait-ce que d'ailleurs, Francky, je vous pique une des scènes de restaurant où on nous oriente, attention, ça va piquer, vers un nogi rizake. C'est un autre saké qui, lui, est laiteux parce qu'il n'est pas filtré et on nous invite à le marier avec un sushi d'espanon. C'est bien. Il y a aussi un kochu, qui est un saké très ambré, un peu comme les whisky, etc. Et lui, on nous invite à le marier avec un sushi de requin. C'est très bien aussi. Sauf que moi, j'habite un bled de 2900 habitants. Et le requin et l'espadon, c'est pas tout à fait ce que je trouve pour remplir mon cabas le matin.
Même dans le Cotentin.
Même au bord de la mer, oui, absolument. Sauf que je suis allé à Bordeaux à la rencontre de Chloé Cazot-Grandpierre. C'est une des spécialistes du saké. Elle a un pédigré que je ne vais pas citer, sinon elle va manger la moitié de ma chronique. Donc je vais aller directement au but. Elle est formatrice, elle donne des cours, elle importe des sakés et elle a créé Otsu Kimi, qui veut dire buveur de lune, ça c'est joli, non? Et elle va marier le saké avec la cuisine de tous les jours, la française. Elle a développé un moyen mnémotechnique qui est à la portée de tout le monde. Vous avez une idée?
Non.
Non? Eh bien, on va le voir maintenant.
C'est les voyelles. Donc, on va prendre le A pour amertume, donc c'est-à-dire les légumes verts. Donc, par exemple, la salade est un bel accord avec le saké. Les asperges, ça va être la saison, si ce n'est que ça a même commencé un petit peu. On garde ce A pour aller vers l'acidité, donc les agrumes par exemple, c'est un très bel accord. La vinaigrette, donc avec la salade, bon ben là on c'est deux fois gagnant. Les cornichons, les tomates. Ensuite on passe au E pour épices, donc que ce soit pimenté ou épicé. I pour iodé, donc les huîtres, alors moi qui suis à Bordeaux avec le bassin d'Arcachon, forcément c'est un accord magistral. Mais voilà, tous les crustacés, le poisson. O pour œuf, donc que ce soit œuf de poule, mais aussi les œufs de poisson, donc caviar pour un accord, on va dire, très luxe, mais ça peut être œuf de limpe. U, c'est pour umami. L'umami, c'est le glutamate, c'est ce que l'on retrouve dans la sauce soja, par exemple, dans les champignons, dans le fromage. Et enfin, alors j'ai pas de Y, par contre, j'ai FS, qui est pour fumer et sécher. Donc saumon fumé, jambon séché, tomates séchées, champignons séchés, tout ça, ça marche. Donc par exemple, un saucisson ou on va dire de la charcuterie avec du fromage, ben, au lieu de faire un accord avec le vin, on peut essayer le saké. Alors les sushis, c'est vrai que ce soit des sushis ou des makis ou des rolls, ou même les sashimi. Donc là, on est sur la partie iodée. On a aussi, comme les California rolls, on a de l'avocat, ou même des fois, on peut retrouver le concombre. Donc là, on est plus dans l'amertume. Donc là aussi, ça marche très bien. Et bien évidemment, le nori, qui est l'algue qui entoure un grand nombre de sushis. Là aussi, c'est le côté iodé et séché qui se marie parfaitement avec le saké japonais.
Drôle de leçon, d'accord. Intéressant.
Pas mal, hein, vous voyez. Charcuterie autant que sushimi et saké. Donc voilà, le saké est compatible avec différentes cultures alimentaires. C'était au final assez fluide, vous voyez, c'est assez simple. Et vous pouvez même retrouver cette experte, je redonne son nom, c'est Chloé Cazot-Grandpierre. Elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle Women Do Wine, les femmes font du vin, qui prépare une grande première le 26 juin. Et elles ont une petite cagnotte pour alimenter ce grand projet. Vous le retrouvez sur notre site. Et si vous voulez vraiment prolonger tout ça, le Salon du Saké, c'est à Paris et c'est début octobre.
Absolument, il y a désormais des événements autour du saké en France. C'est un alcool qui a beaucoup de succès auprès des gourmets. Et vous ne passez pas, évidemment, Francky Alarcon, à côté du saké dans votre album de bande dessinée. Et vous êtes d'ailleurs très pédago hein, sur le sujet. On apprend entre autres que, comme le disait Dominique Hutin, plus le riz qui sert à faire ce vin fermenté de riz, est poli, plus la qualité est élevée, c'est ça ?
Tout à fait.
Plus on va au cœur de l'amidon
plus
du riz.
Plus on va au cœur de l'amidon, plus on va vers la partie qui est la plus, alors pas la plus pure, mais la meilleure en tout cas.
C'est ça.
Du grain de riz.
Shihiro Masui, a priori, le riz du nigiri sushi, c'est-à-dire ce canapé de riz en accord avec un vin de riz, j'ai envie de dire que c'est un mariage spontané, naturel, évident.
Oui, ça marche évidemment très très bien.
Plus que la bière.
Bon, la bière marche pas mal. La bière et le saké ont en commun la double fermentation.
Donc, s'en tenir à des bières, somme toute, assez calmes.
Oui,
pas trop expressives.
Oui. Mais oui, ça marche bien. Après, il y a les sakés qui sont très polis, comme les Daiginjo, se marient un petit peu moins bien, je trouve, personnellement, parce qu'on retrouve moins le goût du riz que dans un Jumai. Mais bon, là, ça devient un peu technique. Mais oui, bien sûr, ça marche très bien, oui.
Et désormais, on trouve des sakés assez facilement un peu partout en
France.
Oui,
c'est distribué, il y a des sites internet, tout ça fonctionne plutôt assez bien.
Dans un instant, on parle poisson et cette différence culturelle entre le Japon et la France. On a des questions d'auditeurs aussi sur le sushi à la maison et pas mal d'autres choses à évoquer. Les origines du sushi, j'aimerais que vous nous en disiez un mot également. Tout ça, ça va se passer après. Oulala, attention. Est-ce que vous connaissez Kenzo Saeki, Shihiro Masui ?
Non.
C'est un compositeur et chanteur japonais, amoureux de la chanson française. Il a écrit des albums au titre très inspiré, L'homme à la tête de sushi. Ou non. Camembert et sushi. Non, je suis très sérieux, vous allez voir. Il reprend Claude François, Bobby Lapointe et surtout Serge Gainsbourg. Vous avez évidemment reconnu le point sonore d'Elila, nipponisé par Kenzo Saiki, un chanteur japonais francophile, pas francophone puisqu'il chante en japonais, mais en tout cas il connaît bien le répertoire français. Le sushi au menu dont on va déguster avec Francky Alarcon, vous êtes l'auteur de L'Art du Sushi aux éditions Delcourt. Chihiro Masui, nippon, installée à Paris, une grande experte de la gastronomie japonaise. Poisson, un art du Japon, c'est une nouvelle édition qui est publiée chez Glénat avec les superbes photographies de Richard Houghton, avec lequel vous avez signé beaucoup de livres.
Oui. 25, 26, quelque chose comme ça, oui.
25, 26. Nous avons des questions par mail de nos auditeurs ou sur l'appli de France Inter.
Mais notamment une question qui revient pas mal sur le sushi, dont on a compris qu'il était un objet gastronomique, un objet de luxe, ou bien plutôt un emblème de street food moins qualitatif. La question est celle de savoir si les Japonais pratiquent le sushi à la maison aussi.
On n'en parle vraiment pas assez, à mon avis. C'est que le sushi fait vraiment partie de la vie quotidienne. Le sushi, à 300, 500 euros, ça c'est vraiment une toute petite part du sushi. En fait, en japonais, on appelle sushi un plat qui est fait avec du riz vinaigré. Point. Donc, ça peut être des boulettes, ça peut être des rectangles, ça peut être plein de choses. Le nigiri sushi, c'est la forme que vous connaissez, la boulette avec le poisson cru dessus, que nous ne faisons pas à la maison, parce que ça demande une sérieuse formation. Mais les inari sushi, les futomaki, les maki, vraiment je fais des maki tout le temps pour les pique-niques.
Les maki, là on parle de rouleaux entourés d'une algue nori.
Voilà. Et on en fait tous les jours, donc c'est très très quotidien.
Vous avez justement évoqué inari sushi. On a sous les yeux de petites enveloppes, c'est comme des paquets cadeaux.
Poche.
Non, mais c'est superbe. Alors, on va pas enseigner l'art de l'inari sushi à nos auditeurs, même s'ils peuvent retrouver évidemment la recette sur franceinter.fr à la page on va déguster, à condition de se procurer de la peau de tofu.
Non, c'est du tofu coupé en tranches fines. Les tranches sont frites.
D'accord.
Et ensuite sont mises à mijoter dans une préparation sucrée salée.
Oui.
C'est très facile.
On les achète toutes faites. C'est
vous les achetez tofu, toutes faites. Moi, je les achète toutes faites.
Tout le
monde les achète toutes faites. C'est dans le commerce, c'est dans les épiceries japonaises, coréennes, chinoises aussi, je crois.
Qu'est-ce que c'est bon?
Et ça s'ouvre. Vous mettez le riz de sushi dedans et c'est tout.
Voilà. Bon, c'est... vous vinaigrez votre riz, etc.
Bien sûr. C'est très sucré. Mais c'est très
hyper facile,
facile.
Alors, en fait.
C'est l'affaire de 15 minutes, vraiment, littéralement.
C'est un régal.
C'est bien pour
nous. On peut mettre combien dedans?
Vous mettez ce que vous voulez dedans. Inari, sushi.
15 minutes, c'est pour le préparer, parce qu'à manger, ça va plus vite.
C'est délicieux.
Délicieux.
Avec ce côté sucré, salé.
Et sans poisson cru.
Sans poisson cru. Du tout, c'est végé. Hein.
Car donc, le sushi végétarien absolument existe. On parlait de sushi à la maison, justement, Francky Alarcon, dans votre album, vous nous emmenez chez un japonais assez excentrique, pour pas dire un peu hippie ou un peu punk.
Dandy, hippie, un peu, on sait pas trop.
Qui vous a fait une démonstration de sushi à la maison.
Tout à fait, ouais. Des amis de Rika, et du coup, elle nous a emmené un soir dîner chez eux. Donc, on est venu avec quelques tranches de poisson cru qu'on a acheté dans une poissonnerie. Et du coup, on a fait un menu maison. Donc, on a fait des temaki sushi. Espèce de petit cornet fait avec une algue nori.
Je crois savoir que temaki, ça vient de te, qui veut dire la main.
Ça veut dire rouler à la main. Vous prenez la feuille de nori dans la main gauche, vous mettez le riz dedans, vous mettez un poisson ou un machin dedans.
Voilà,
vous
de
roulez,
l'avocat. Bah, et...
Ça a l'air facile dit comme ça, mais
c'est
vraiment facile.
C'est super facile.
Ah oui,
c'est
faut choper le coup de main, mais c'est vraiment c'est facile.
Ah bon, il faut se reporter là aussi à la bande dessinée. Non, mais il y a les schémas.
Tout à fait, il y a des petits schémas.
Pour faire des temaki à la maison, une temaki partie à la maison.
Bien sûr.
C'est du riz vinaigré, des ingrédients, etc. On fait chacun ses petites enveloppes et ses cornets.
Enfin, son petit cornet plutôt que rouleau.
Tout le monde est très content et les enfants adorent ça. Je peux vous le dire. Quelques auditeurs nous posent des questions sur les origines historiques du sushi. Là aussi, vous y revenez un peu dans votre bande dessinée. Est-ce que le sushi, dans sa forme actuelle, a toujours existé à Tokyo, car je crois que c'est son lieu de naissance, Chihiro Masui.
Oui, on parle le sushi tel que vous le connaissez, à savoir la boulette de riz avec le poisson dessus ou le sushi roulé dans une feuille d'algue. C'est une spécialité de Tokyo qui à l'époque s'appelait Edo, parce que la baie de Tokyo, où aujourd'hui il y a de moins en moins de poissons, mais la baie de Tokyo était une baie extrêmement riche en poissons. Voilà, ça c'est le point de départ. Et on parle toujours de tradition, de cuisine traditionnelle, etc. Mais le sushi n'est pas si vieux que ça. Le sushi avec le poisson cru date grosso modo de l'après-guerre. Grosso modo, hein.
Bon. C'est relativement moderne.
C'est relativement moderne. On dit que l'inventeur du sushi moderne, c'est un monsieur qui s'appelait Yohei le Flamboyant, qui vendait des sushis qui devaient ressembler un petit peu à ce qu'on mange aujourd'hui, mais pas cru. Mm-hmm. Pas des poissons crus, des poissons cuits ou marinés, et qui les vendait dans la rue. C'est un marché ambulant au 19e siècle, à l'époque où Tokyo, Edo, était la plus grande ville du monde.
Mm-hmm.
Ça, c'est l'origine du sushi actuel.
C'est ça.
Si on remonte encore plus loin,
Eh bien, on peut remonter
jusqu'à la Chine.
Jusqu'à la Chine, puisque c'est par là que les sushis sont arrivés.
Oui.
Et du coup, ouais, c'est une importation. Enfin, une importation. Non, c'est des moines bouddhistes qui auraient ramené ça au Japon. Et du coup, c'est un moyen de conservation du poisson dans du riz cuit. Voilà. Mais ça se conservait sur une durée très longue et on ne mangeait pas le riz.
On jetait le riz. Et on gardait le poisson fermenté.
Voilà.
Donc le riz servait en fait d'agent de conservation en quelque sorte, et le poisson était un poisson justement décomposé, très fermenté. J'imagine que son goût était assez puissant.
Oui, j'aurais pas osé en goûter.
On est loin de la délicatesse de ces poissons japonais, car oui, on le dit, on en arrive à cette question, que le goût du poisson n'a pas le même goût en France, sur les côtes bretonnes ou méditerranéennes, et au Japon, notamment pour une question. Alors, il y a des espèces qui varient effectivement, notamment, et qui dépendent des régions, des terroirs, de la nourriture du poisson, des températures de l'eau, etc. Mais c'est aussi une question de mise à mort. Et il y a un mot qui revient très souvent dans votre bande dessinée, Francky Alarcon, c'est Ikejime. On veut en savoir plus ?
Tout à fait, l'Ikejime. La première fois que je l'ai découvert quand je suis arrivé au Japon, parce que avant d'aller au Japon, je connaissais pas l'Ikejime du tout. Donc on arrive au Japon, Mizutani nous emmène au marché le matin très tôt. Premier poisson qu'il achète, le vendeur de poisson attrape le poisson.
Il s'agissait d'un poisson plat, genre
un
turbo.
Un poisson plat, genre turbo, un iramé, et pour être exact.
D'accord.
Voilà, prend le couteau, met un coup de couteau derrière la tête du poisson. Ouvre au niveau de la queue, il passe une aiguille dans l'arête centrale du poisson, et là je reste un peu interloqué.
Et une longue aiguille, hein.
Une très très longue aiguille, hein. Dans toute l'arête du poisson, le poisson était assez grand quand même. Et là je reste un peu scotché.
On voit dans vos dessins, ça fait un peu froid dans l'eau.
Oui, qu'est-ce qu'il fait au poisson et pourquoi il lui fait ça? Puis en plus, quand il passe l'aiguille dedans, le poisson se met à frétiller frénétiquement. Donc on se dit que c'est un petit peu violent et tout ça. Donc là je retourne vers Rika et je dis, qu'est-ce qu'il a fait au poisson? Rika m'explique, il l'a tué vivant.
Il l'a tué vivant. Ikejime veut dire tué vivant. Mais alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont affolés, oulala, bien-être animal, etc. En réalité, malgré les apparences, car on voit le poisson frétiller, c'est précisément une façon de tuer le poisson, de le mettre à mort, mais de façon, j'ai presque envie de dire, instantanée, douce, sans souffrance du poisson.
On tue le système nerveux, le nerf central du poisson.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il est nerveusement mort.
Il ne souffre pas. C'est ça,
non, mort cérébrale.
Mort cérébrale.
Oui. Après, le cœur continue à battre et c'est ce qui permet d'évacuer le
sang. Ouais. C'est très important, ça. Le cœur continue à battre et du coup, le sang est expulsé du corps du poisson.
Car la finalité de l'Ikejime, alors il y a la souffrance évidemment du poisson, mais il y a aussi une finalité gustative.
D'abord gustative, parce qu'en faisant ça, donc, on évacue le sang du corps du poisson, donc ce qui empêche le petit goût métallique qu'on peut retrouver des fois dans certaines chairs de poisson. Et surtout, ça permet de maîtriser, en tout cas, la décomposition des chairs.
Voilà. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut faire maturer des poissons qui ont subi l'Ikejime pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, un peu à la façon de la maturation des viandes, en fait.
C'est exactement pareil, oui. Parce que la maturation, c'est comme un fromage, c'est comme un jambon, c'est comme n'importe quoi. La maturation apporte du goût. Mmh. Alors après, on en veut moins, ou trop, ou plus, ou moins. Enfin bon. Donc, l'Ikejime est vraiment un outil de travail pour le cuisinier, qui n'est jamais pratiqué au Japon par le cuisinier, c'est toujours pratiqué par le poissonnier, par le pêcheur, le plus rapidement possible après la sortie de l'eau du poisson. Ça, c'est très important.
Oui.
Et d'ailleurs, Francky parle du thon d'Oma dans sa BD. Pourquoi le thon d'Oma est si bon? C'est parce que le port de pêche est très, très proche du lieu de pêche.
C'est ça.
Et avant de rencontrer M. Mizutani, j'avais toujours pensé qu'un poisson était frais quand on le tenait, qu'il était raide.
Mm-hmm.
En fait, non. Quand il est raide, il est très mort.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, c'est déjà trop tard pour pouvoir contrôler la maturation du poisson. Quand on fait maturer le poisson, il y a des acides aminés qui se développent dans la chair, glutamate, inosinate pour les produits de la mer, etc. C'est ce qu'on appelle l'umami.
Oui.
Voilà. L'umami, c'est très simple. Hein. C'est tout simplement la présence d'acides aminés. Il y en a dans la tomate, il y en a
goût,
dans la truffe,
dans le parmesan.
Voilà, dans le parmesan. Il y en a dans plein de choses. C'est pas que japonais, c'est juste le mot qui est japonais. Donc, l'ikejime permet au cuisinier de, entre guillemets, produire l'umami et aussi d'obtenir la texture plus ou moins fondante qu'il souhaite.
C'est cela.
Voilà.
Et vous avez eu une sueur froide en 2015 quand Mizutani, vous l'avez emmené en France pour faire une démonstration de poisson. Il n'a pas trouvé les poissons à son goût. Il trouvait nos poissons très très forts, pour ne pas dire un peu pourris finalement.
Très mort.
Très mort.
Oui. Très, très, très mort.
L'Ikejime, justement, Francky Alarcon, et vous l'expliquez, vous le racontez dans votre bande dessinée, c'est une technique qui se développe chez les pêcheurs, notamment bretons, et il y a aussi des cuisiniers qui sont adeptes de cette technique, et notamment à Saint-Guénolé, au port de Saint-Guénolé.
Tout à fait, ouais, là-bas j'ai rencontré Stephanie Woods avec son mari, et en fait ils ont vécu au Japon, et ils ne travaillaient pas du tout dans la pêche. Alors lui est originaire d'une famille de pêcheurs, donc il connaît bien le milieu quand même, mais ils n'étaient pas du tout pêcheurs à la base, et quand ils sont revenus en France, en fait, elle a voulu faire découvrir en tout cas cette méthode l'Ikejime. Et elle a créé donc son entreprise qui s'appelle France Ikejime. Son mari part à la pêche, il ramène les poissons à quai et elle Ikejimise les poissons.
Elle Ikejimise les poissons. Alors, et elle les vend à des cuisiniers adeptes de ce nouveau goût en quelque sorte.
Ouais, carrément. Et puis en plus, je trouve que sa technique, elle est encore plus poussée que ce qu'on a vu au Japon. C'est vrai qu'à Tsukiji, on a vu le quand Mizutani a acheté son poisson, Ikejime était fait en 2 minutes chrono. Hein. Stéphanie Wuz prend beaucoup plus de temps, technique personnelle qu'elle a développée pour tuer ses poissons.
Une demi-heure par poisson.
À peu près, ouais.
Waouh. Le riz à la base du sushi, le riz à la base du saké et le riz à la base d'un mystérieux dessert que dévoile Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Alors on parlait de différence de rapport au poisson entre la France et le Japon. Il existe une vraie différence de rapport aussi à la pâtisserie, au sucre, au répertoire sucré entre la France et le Japon. Si on schématise un peu, on pourrait dire que la grande tradition pâtissière française, c'est un répertoire qui est encore très marqué par l'héritage d'Antonin Carême, dans sa version moderne par Gaston Lenôtre, ce qui se traduit en termes de design par un travail sur la construction, l'architecture, l'ergonomie presque, où le Graal, c'est vraiment l'équilibre des saveurs, du gras et du sucre, la recherche absolue de contraste, de texture. Quand il y a un crémeux, une ganache, il y a toujours un biscuit, une opaline ou une arlette.
Ah, moi, je
pas
m'imaginais en vous écoutant un millefeuille. Mais...
Bah, exactement, je pensais à ça aussi au moment où je vous parle, et qui est caractérisé par sa flamboyance.
Et que les Japonais adorent, précisons-le quand même.
Adorent et qu'ils ont réussi à absorber avec une dextérité, une maestria incroyable. Ils font même la pâtisserie française peut-être plus aboutie encore que celle que l'on pratique nous parfois.
Ah, vous allez vous faire des amis chez nos amis pâtissiers.
C'est le but de la manœuvre. On ne peut pas faire plus diamétralement opposé que le répertoire traditionnel sucré japonais où les saveurs sont discrètes, presque en demi-teinte, les couleurs un peu comme un lavis en peinture, où la texture oscille entre le moelleux, le gluant et dont la vertu cardinale est la douceur et en quelque sorte le charme discret, et dont le gras est pour ainsi dire absent. Une civilisation du beurre contre une civilisation de la farine de riz et du haricot.
Elvira a choisi son camp.
Ah non, mon cœur balance vraiment entre les deux, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les deux. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement la France a fini par se mettre, a fini également par absorber des influences qui nous viennent du Japon. Vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé ici des dorayaki. Vous vous souvenez, Chiro, on est allé ensemble en déguster à Paris, dans le 2e arrondissement d'ailleurs, des petits pancakes fourrés de pâte de azuki rouge. Mais promis, à mon avis, encore un plus grand succès, il y a les mochi.
Mochi. Alors,
les mochi.
Ah, c'est pas, mochi,
ça veut dire allô, c'est ça?
Mochi.
On dit bien mochi. Alors, on les trouve déjà beaucoup en version glacée, un peu partout en France, des versions un peu tout venant qu'on trouve dans des supermarchés spécialisés dans les produits surgelés. Mm-hmm. On trouve ça également dans des chaînes de sushis à emporter. C'est vraiment une version glacée de ce produit. Plus intéressant que les mochi glacés, je trouve, il y a les mochi classiques. Ça ressemble à ça, comme une sorte de petit galet.
Oh là là.
Une pâte souple et élastique, de couleur claire.
Ah oui. C'est souffle.
Fourré de purée de azuki, haricot rouge ou haricot blanc. Il y a très longtemps, traditionnellement, on les faisait avec du riz cuit, réduit en pâte au mortier.
Chacun se sert. Hein,
désormais, aujourd'hui, on les fait plutôt avec une farine de riz gluant.
Oui.
Ceux-ci sont des mochi daifuku. Quand on dit mochi daifuku, oui, c'est ce rond, ce galet rond, fourré de pâte de haricot. Mochi daifuku, ça veut dire grande chance. Daifuku, c'est bien ça?
Dominique daifuku, est en train d'en déguster un.
Dominique,
impression
c'est
juste.
J'ai la bouche pleine, joker.
Non, c'est une merveille. Bah, c'est écoutez quoi, là vous avez yuzu, je pense, non?
Oui, absolument.
Je François plaisante, Régis, vous avez. Il y a sésame noir, sakura,
oh, le pied.
Fleur de cerisier, anko, haricot rouge, il y a de l'amande, mais également des parfums, j'allais dire, plus européanisés. Il y a de la bergamote, il y a de la rose, du gingembre.
Quel régal.
Ouais, je pense que j'ai saumon ou thon.
Non, c'est pas un onigiri non plus.
Ils sont très bien faits ceux-là. Hein.
Ils sont magnifiques. Hein.
C'est vraiment un poutou-poutou.
C'est un poutou-poutou, c'est pas un mochi-mochi, c'est un poutou-poutou. Ceux-ci viennent de la Maison du Mochi, qui existe déjà sous la forme d'une boutique en ligne depuis 2 ans, et qui ouvre dans quelques jours une adresse physique rue du Cherche-Midi à Paris dans le 6e. Sa fondatrice, Mathilda Mott, a découvert le mochi au Japon où elle vivait. Elle en est tombée amoureuse, elle s'est essayée à la confection délicate, elle a raté un nombre de recettes incalculables. Elle a fini par tenir la recette qui lui semblait la plus approchante de celle qu'elle avait goûtée, qu'elle avait vraiment éprouvée. Pour elle, la plus grande difficulté n'est pas tant cette partie extérieure qui est un peu, c'est pas gluant, c'est élastique.
La consistance, ça ne souffre pas la médiocrité.
Non, voilà.
La consistance est exemplaire, c'est magnifique.
Incroyable.
Et la difficulté pour elle, c'est le...
C'est
incroyable.
Et la tendreté maximale.
Pour elle, la difficulté, c'est vraiment de réussir cette pâte de haricot au cœur parce qu'il n'y a pas de gras. Or, il n'y a pas de gras, parce qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de matière grasse, mais il faut de l'onctuosité. Mm-hmm. Et une fois qu'elle a été satisfaite de cette recette, elle a ouvert son atelier en Touraine, où elle vit. La difficulté pour l'heure, elle utilise une farine de riz sans OGM, mais elle n'a pas encore trouvé de farine bio. Elle aimerait beaucoup travailler avec de la filière riz de Camargue, ce serait génial. Ses haricots blancs sont des mojettes de Vendée. Ses haricots rouges sont bio, mais pas encore français. Zéro gras, zéro colorant, zéro conservateur. Son idée est de proposer un mochi respectueux de la lettre japonaise, mais 100% français. La texture, moi ça me faisait penser à des fesses de bébé en fait, et elle me dit qu'au Japon on dit que la
texture
idéale... Ah oui, on en mangerait,
bien sûr. Non, mais attendez. Non,
que la texture idéale, dit-on au Japon, est celle du lobe de l'oreille.
Voilà, ah, bah, c'est bien dit, voilà. Le mochi, on a la texture. Ça,
ouais. Et tout le monde se touche les oreilles.
C'est ça.
Évidemment.
Et c'est la poésie pâtissière.
Même derrière la vitre de la régie, évidemment, tout le monde se touche le lobe de l'oreille.
Lequel, votre préféré, vous avez goûté quoi?
Moi, j'en ai goûté qu'un, et je pense qu'il va plus en rester beaucoup pour faire les, malheureusement, le banc d'essai.
Mais si c'est zéro beurre, on peut remplacer par la crème fraîche, peut-être?
Oh, quelle horreur.
Shihiro Masui, est-ce que vous validez la qualité de ces mochi?
Oui, je suis surprise, parce que j'avais goûté les premiers essais de Mathilda Mott, et vraiment, là, ça n'a rien à voir. Elle a fait des progrès énormes. Effectivement, nous, nous n'appelons pas cela des mochi, c'est des daifukumochi. Mochi tout court, c'est le riz gluant cuit et ensuite réduit en pâte. Mais là, la texture est absolument parfaite.
Ravi.
Pour finir cette émission, une question, on est assailli de questions sur notre mail sur que faut-il penser des chou-chis que l'on consomme en France. On peut déjà dire quand même que les Français sont particulièrement friands de sushis puisque ce sont les premiers consommateurs européens du sushi. À l'heure où le sushi s'est mondialisé et qu'on le trouve vraiment dans le monde entier, c'est même une nourriture qu'apprécient beaucoup les jeunes gourmets, les enfants, etc. La qualité moyenne du sushi en France, Shihiro Masui?
La qualité moyenne des sushis en France vendus dans les supermarchés, j'ai le droit de le dire, oui. Ça m'effraie complètement.
D'accord.
Ça m'effraie complètement parce qu'au Japon, quand on achète des sushis en barquette dans n'importe quel supermarché, il y a l'heure de fabrication et l'heure de péremption.
Bien sûr.
Ici, la date de péremption, c'est 3 jours. 3 jours pour du poisson cru, moi j'achète pas. Je sais pas si je vais
dire ça. Bah écoutez.
On finit sur une note positive avant tout.
Mais on va quand même finir sur une note positive puisque je renvoie nos auditeurs au carnet d'adresses des bons sushis en France. Alors il y a quand même des sushis, il faut le dire. Oui. Il y a des expériences qui peuvent se faire à Paris, mais il faut casser sa tirelire. Donc on y va quand même avec des œufs et on a bien conscience que le sushi n'est évidemment pas malheureusement réservé à toutes les bourses, mais que ça correspond à un art traditionnel absolument exceptionnel au Japon. Merci. Beaucoup à tous les deux. On a aussi une question sur où trouver une bonne sauce soja.
Chez Nishikidori Market.
Voilà, elle m'enlève les mots de la bouche. Nishikidori, c'est une excellente adresse. Avec
qui vend en ligne.
Qui vend en ligne.
Et oui, qui distribue dans toute la France.
C'est quand même super pratique. Et qui vend des produits en plus plutôt rares et pas trop chers en plus.
Non, pas trop chers. Très bon rapport qualité-prix. Nishikidori pour de la sauce soja, pour quantité de condiments, y compris du riz, si on veut s'essayer.
Riz, nori, enfin, ils fournissent à peu près
tout. Ils ont la meilleure sauce soja du Japon. Enfin, voilà. C'est celle que j'utilise, moi.
Voilà une bonne nouvelle, une note positive.
Voilà. Et puis, pour faire des sushis à la maison, il y a également une recette qui est aussi dans votre livre et dont vous nous proposez la version vraiment originelle sur franceinter.fr à la page On va déguster. C'est un shirashi, en fait.
Voilà.
Qui est un riz déstructuré.
Tout à fait. Voilà. Rika. C'est un bol de riz avec du poisson et d'autres ingrédients. Alors, c'est la recette que Rika nous a faite à la maison quand elle est venue à Paris la dernière fois. Elle m'a dit, je vais te faire une recette pour ton livre de sushi. Alors, je l'imite très mal, hein. Désolé, Rika. Et donc, elle nous a fait cette recette qui est vraiment super. Le thon est mariné dans une sauce à base de myrrhine, saké et sauce soja. Et c'est super bon.
On vinaigre son riz, c'est délicieux. On a la sensation d'un bon sushi domestique à la maison et bon marché de surcroît. L'art du sushi de Francky Alarcon chez Delcourt. Et si on veut en savoir plus sur les secrets de vos dessins, et ben j'invite nos auditeurs à aller visionner votre leçon de dessin en vidéo de Francky Alarcon. Ça a été produit par Handware qui travaille au service web de France Inter. On vous a mis le lien sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous nous avez d'ailleurs fait quelques petits croquis qu'on va mettre en ligne tout à l'heure. Et vous êtes aussi en dédicace cet après-midi pour votre album de bande dessinée.
Je suis à 48 heures BD sur scène cet après-midi de 15h à 17h. Donc c'est au Pont Solferino près du musée d'Orsay.
Allez voir Francky Alarcon. En plus, vous dessinez vos dédicaces, j'imagine.
Ah bah tout à fait.
Vous allez avoir plein de monde. Shihiro Masui, une nouvelle édition de votre livre Poisson, un art du Japon, avec des clichés vraiment extraordinaires qui plongent au cœur de la matière et des chairs. C'est vraiment tout à fait spectaculaire. C'est très précis. C'est devenu un ouvrage de référence, on peut le dire. La preuve, il est réédité.
Oui, il a 10 ans, là, il est réédité au bout de 10 ans, donc je suis très 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 contente et reconnaissante.
Aux éditions Glénat. Merci. La semaine prochaine, les amis, on vous propose une leçon de cuisine anti-gaspi avec deux chefs dont le combat quotidien est de ne rien jeter. Vous nous avez mis d'ailleurs sur la voie d'un des deux chefs qui vient à ce micro, Elvira, c'est Joanne Thiriot.
Oui, formidable, à Trouville.
Voilà, et qui justement est dans la cuisine anti-gaspi. Et il fera une espèce de battle anti-gaspi avec Chloé Charles. Esther El Payeni et Déborah Dupont seront dans les fauteuils des chroniqueurs à dimanche prochain. Si vous avez encore faim.